La citoyenneté, on en parle ? Des lycéens de seconde option littérature et société du lycée Lalande vous présentent des chroniques autour de la citoyenneté. Dans chaque chronique, une thématique différente.
Bonjour, je suis Axel.
Bonjour, je suis Océane.
Bonjour, je suis Alice.
Nous sommes des élèves de seconde du lycée Lalande à Bourg-en-Bresse.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la justice, plus précisément du fonctionnement d'un procès et du tribunal de Bourg-en-Bresse.
Radio B, Radio B.
On parle souvent de justice, mais savons-nous vraiment ce que c'est ? La justice fait référence à l'égalité et à l'équilibre dans les relations humaines. Elle implique la stabilité.
Mais pourquoi est-elle essentielle ?
Elle est jugée essentielle pour faire respecter les lois et punir quiconque ose les braver.
Quels sont les métiers qui la composent ?
Elle est composée principalement des magistrats, des administratifs judiciaires, des notaires, des huissiers et des avocats. Ils sont présents durant le procès.
Environ 93,9% des condamnations inscrites au casier judiciaire. Oula, ok. Environ 93,9% des condamnations inscrites au casier judiciaire concernent les délits. 5,7% concernent les contraventions et seulement 0,4% concernent les crimes.
C'est quoi un casier judiciaire ?
Le casier judiciaire, c'est le relevé des condamnations pénales d'une personne inscrite au casier judiciaire national. Les informations contenues sont rédigées sous forme d'extraits appelés bulletins de casier judiciaire.
On parle de plusieurs justices. Jérôme Etienne, professeur de droit au lycée Lalande, nous donne quelques clés pour comprendre le monde de la justice. Jérôme Etienne, bonjour. Vous êtes professeur de droit au lycée Lalande.
Bonjour.
On parle de justice pénale, de justice administrative et de justice civile. En quelques mots, quelles sont les différences ?
Alors, les trois justices que vous venez d'évoquer concernent en réalité des éléments d'application de la règle qui sont un peu différentes en fonction des publics. La justice administrative concerne uniquement les rapports des particuliers avec les établissements publics ou avec les agences de l'État. La justice civile et la justice pénale, ce sont deux éléments en fait qui concernent notamment les conflits entre particuliers et qui portent en réalité sur les infractions qui peuvent être qualifiées soit de civiles si c'est une demande en réalité de remboursement de frais par exemple, ou soit de pénales s'il y a eu une contravention ou un délit à la clé.
À Bourg-en-Bresse, il y a un palais de justice inauguré en 2016 par François Hollande. Mmh. C'est quoi un palais de justice ?
Alors, avant le nouveau palais de justice, il y avait plusieurs cours, en réalité, qui étaient répartis dans la ville. Il y avait le tribunal correctionnel et le tribunal d'assises qui étaient à côté de l'ancienne prison. Il y avait le tribunal des prud'hommes qui était derrière le commissariat de police, etc. Donc en fait, le palais de justice nouveau qui a été inauguré rassemble toutes les cours qui étaient disséminées dans la ville.
Il existe plusieurs métiers dans le domaine de la justice. On pense aux avocats. Savez-vous d'où vient leur nom, avocat ?
Alors, aucune idée en la matière sur l'origine du nom. Surtout que ce que vous venez de dire sur les avocats, ça ne concerne pas directement la justice, puisque ce sont des auxiliaires de justice, en fait, les avocats. Dans les métiers proprement de la justice, on compte en priorité les magistrats. Donc, les juges, par exemple, ou les procureurs.
On les voit porter des toges, pourquoi ?
Alors, d'abord, ce ne sont pas toutes les mêmes toges. En fait, même si on a l'impression que ce sont toutes des toges noires, elles ont des particularités chacune, c'est-à-dire la toge des avocats n'est pas celle des procureurs, qui n'est pas celle des magistrats non plus, qui n'est pas celle des greffiers non plus. C'est des petits détails, je ne sais pas, les différents plis, la façon dont l'hermine est mise autour du cou des magistrats, par exemple. Bon, c'est des petits détails. Et la toge, en fait, c'était à l'origine, on avait construit cet artifice vestimentaire pour distinguer en fait ce qui était de l'ordre de la justice de ce qui était de l'ordre du justiciable. Donc en fait c'est une espèce d'uniforme quelque part, un peu comme les militaires avec leur uniforme, les policiers avec leur uniforme, etc.
En trois points, à quoi servent les juges ?
En trois points. Premier point, c'est un arbitrage lorsqu'il y a un conflit. C'est-à-dire que c'est le juge qui énonce la règle qui existe, par exemple, lorsqu'il y a un conflit entre des personnes, entre des entreprises et des salariés, pour les prud'hommes par exemple, entre l'État et les administrés par exemple. Donc c'est le juge qui énonce la règle et qui dit, voilà, la règle c'est celle-ci et on l'applique de telle façon. Donc ça, c'est le premier point. Donc ils sont un petit peu pacificateurs sociaux. Et puis le deuxième point, peut-être probablement auquel on pense jamais assez, c'est parce que les juges, en fait, interprètent aussi la règle. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas directement d'appliquer une règle préétablie en disant « voilà, la règle c'est ça, vous appliquez de telle façon ». C'est un peu trop simple, à la limite il faudrait simplement donner l'application et c'est pas tout à fait le cœur de leur métier. Le cœur de leur métier c'est d'interpréter la règle aussi, c'est-à-dire on appelle ça la jurisprudence, et donc ils doivent inventer des règles au cas par cas en fonction de la règle initiale qui a été établie.
Dans certains procès il y a des jurés, qui sont-ils ?
Alors, dans certains procès, alors pour être très clair, il s'agit en fait des procès d'assises, donc qui concernent les infractions les plus graves du code pénal, c'est-à-dire les crimes. Alors, les jurys, en réalité, sont désignés à partir des listes électorales. Donc, pour chaque procès d'assises, en fait, on convoque, puisque c'est la justice des citoyens qui s'applique dans les procès d'assises. Donc on convoque un certain nombre de personnes, une cinquantaine, une soixantaine, une centaine. Donc ces gens-là ont été tirés au sort sur les listes électorales, hommes, femmes confondus, tout âge, toute profession. Et ils sont tirés au sort le matin de l'affaire, en réalité, par la présidente ou le président de la cour d'assises. Et il a une grande urne avec un numéro qui correspond à chacun des personnes qui se trouvent dans la salle. Et en fait, on garde un certain nombre de personnes pour l'affaire qui siègent à côté du magistrat en fait, pendant toute la durée de l'affaire et qui délibèrent en fin d'affaire pour donner un verdict. Tout le monde peut être concerné, évidemment. Il faut deux critères, en fait. Il faut avoir 23 ans, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Et puis, bah, évidemment, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Quand on pense justice, on pense juge ou avocat. Yoann Foubert est avocat à Bourg-en-Bresse. On lui a posé quelques questions sur son métier.
Bonjour, maître Yoann Foubert. Vous êtes avocat à Bourg-en-Bresse. Quel est le parcours pour devenir avocat ?
Bonjour. Pour être avocat, il faut prêter serment après une école professionnelle qui dure environ 2 ans en alternance entre, d'une part, une école régionale et, d'autre part, un cabinet qui nous sert de tuteur de stage. Et on entre dans cette école professionnelle avec au minimum 4 années à l'université en droit.
Quelle est votre spécialité ?
Je n'ai pas à proprement parler de spécialité, ce qui nécessiterait un diplôme particulier obtenu après plusieurs années d'exercice dans le même domaine, mais mon activité est essentiellement tournée vers les personnes auxquelles on reproche des infractions.
Quel type d'affaires est-ce que cela recouvre ?
Oh, alors dans le droit pénal, on a tout le contentieux des contraventions routières et des délits routiers, d'une part, c'est une grosse branche. Ensuite, on a également toutes les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes. L'actualité vous montre évidemment combien d'affaires sont poursuivies pour récemment là, des atteintes aux personnes. On a aussi une partie du droit pénal qui est dirigée plutôt sur l'activité de l'entreprise et donc la gestion notamment de l'argent d'une entreprise, ce qu'on va appeler l'abus de bien social.
Quelles sont les différentes obligations d'un avocat ?
Alors la profession d'avocat est soumise à un grand nombre d'obligations auxquelles elle est également d'ailleurs très attachée. Ces obligations peuvent concerner le rapport entre l'avocat et son client, par exemple le secret des correspondances, le rapport également entre l'avocat et un autre avocat, encore une fois ici une question de confidentialité des correspondances, mais de manière plus générale aussi des obligations de délicatesse, de confraternité. Qui impose qu'un nouvel avocat aille se présenter, par exemple, à ses confrères déjà présents. Et également, dans les rapports entre avocat et magistrat, l'avocat, par exemple, se lève en début d'audience, dévait sa tête pour manifester le respect qu'il a pour l'institution judiciaire. Et puis enfin, l'avocat à l'audience porte une robe.
On parle d'avocat commis d'office. Qu'est-ce que c'est ?
Alors l'avocat commis d'office, c'est un avocat qui se voit, disons, obligé d'assister un justiciable qui en a fait la demande. Alors il y a deux hypothèses. C'est d'abord l'hypothèse de l'urgence absolue et du contentieux de la liberté. On a évidemment tous en tête l'avocat intervenant en urgence en garde à vue, l'avocat intervenant également parfois en détention devant les commissions de discipline, l'avocat intervenant également devant le juge des libertés et de la détention. au moment où un magistrat est saisi d'une demande de placement en détention. Et puis également le contentieux tout à fait classique, tout à fait habituel des justiciables qui ne connaissent pas et qui ne souhaitent pas choisir eux-mêmes un avocat. Et dans ce cas-là, il s'adresse à notre représentant, le bâtonnier, et le bâtonnier tient une liste de tous les avocats de son barreau, de son département, et les désigne dans l'ordre pour les assister. C'est une sorte d'annuaire automatique.
Pourquoi appelle-t-on les avocats maîtres ?
C'est une vieille tradition historique. Les avocats étaient titulaires d'une maîtrise et comme tous les gens de justice, ils étaient appelés par leur titre. Aujourd'hui, on a une survivance de cet usage également en médecine, pas seulement parce qu'on appelle les médecins docteurs, mais aussi parce qu'on appelle les professeurs de médecine professeurs. En droit, on appellera maître toutes les professions autour, disons, de la magistrature, donc les avocats, ensuite évidemment les huissiers, également les notaires, bref, tous ceux qui ont une compétence reconnue en droit.
Pourquoi est-ce que les avocats portent une robe ?
Les avocats portent une robe parce que la première profession, disons, à avoir assuré les missions de l'avocat, c'était la profession de prêtre, et les prêtres étaient en soutane. Il faut imaginer que au moment où les avocats deviennent une corporation à part de l'Église, ils ont du temps à consacrer, ils ont des moyens d'existence qu'ils ne tirent pas de leurs affaires, et c'est évidemment le clergé qui réunit ces disponibilités-là. Ensuite, là depuis deux siècles, disons, en France, il y a une vraie professionnalisation qui fait que désormais c'est un métier à part entière, mais l'avocat, comme d'ailleurs le greffier et l'huissier, a conservé un costume particulier de sa profession. Une des atteintes les plus visibles à l'existence même des avocats, ça a été de supprimer le port du costume, ce qu'a fait Napoléon pendant quelques années. Et la première grande victoire de la profession au XIXe, ça a été d'obtenir le rétablissement du port du costume d'audience. Alors je vous donne une petite anecdote. Le port de la robe par un avocat le rend prioritaire sur tout autre avocat qui ne porterait pas la robe. Ainsi, lorsque deux avocats se croisent ou veulent entrer dans la même pièce, on va toujours privilégier celui qui porte le costume par rapport à celui qui ne le porte pas.
Merci beaucoup, Yann Faubert.
Radio B, Radio B.
Comme on se demandait comment fonctionnait un tribunal, et notamment les assises, nous sommes allés en reportage au tribunal de Bourg-en-Bresse.
Quand on est arrivé au palais de justice, on nous a fouillés. On a attendu quelques instants devant la salle d'audience. Lorsqu'on est entré dans la salle, on a pu s'asseoir, on a attendu l'arrivée des avocats et de l'accusé.
Quand la cour arrive, toutes les personnes présentes dans la salle doivent se lever. La cour, ce sont trois magistrats professionnels avec un président. Aux assises, il y a un jury. Il est composé de jurés tirés au sort. Certains sont gardés et se placent près de la cour, certains sont récusés, d'autres ne sont pas appelés.
Quand le procès débute, la cour rappelle les droits et les devoirs de l'accusé. Il se rend à la barre et doit se présenter. Il doit décrire sa vie et l'acte qu'il a commis.
Les témoins sont appelés, ils sont interrogés sur leur lien avec l'accusé et sur ce qu'ils ont vu. Il y a des pauses et le procès reprend aux alentours de 14 heures.
Quand la cour arrive, nous devons nous relever et les témoignages reprennent. L'accusé est rappelé à la barre, on lui pose encore des questions. Et il doit décrire plus précisément le crime qu'il a commis. Les experts sont appelés et doivent témoigner de ce qu'ils savent.
L'accusé est appelé et sa peine est proposée par le procureur. Elle est acceptée ou modifiée par la cour. Grâce aux interviews et aux procès qu'on a suivis, nous en savons beaucoup plus sur la justice.
C'était très intéressant de découvrir les coulisses de la justice. Pour information, certains procès se tiennent en huis clos et ils sont fermés au public. Pour les autres, vous pouvez tout à fait y assister.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du tribunal de Bourg-en-Bresse.
Merci pour votre écoute et merci au lycée Lalande et à Radio B de nous avoir permis de créer notre chronique. Bonne journée sur Radio B.
C'était La citoyenneté, on en parle ? Une chronique réalisée par les élèves de seconde option littérature et société du lycée Lalande. Merci au lycée Lalande et à la DAC pour leur financement. Des chroniques à réécouter sur le site de Radio B.